Voilà, comme ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe de ce côté.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded, sir.
Aggredisci.
Passato fatto, che faccio?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce il?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fatti fisso? Come fatti fisso?
Bienvenue dans Cinémascope, chers amis du cinéma. Du cinéma, il va en être question là maintenant à 12h10. Il en sera question de nouveau à 17h10 pour ceux qui se font la rediffusion. Et puis, bien sûr, quand vous voulez, en réécoute sur notre site tout neuf et tout beau. Cinémascope, une équipe presque au complet, sauf que c'est l'équipe d'un livre, un film, avec, bien bon, bonjour Cathy.
Bonjour Olivier, bonjour Sylvain, bonjour à toutes et tous.
Bonjour.
Voilà, moi aussi je vous salue, et je salue en particulier Sylvain avec lequel je travaille depuis un petit moment.
Ça commence à faire.
Voilà, au programme, alors un programme totalement décousu. Quand on prépare comme ça une émission, on essaye de faire du lien pour faire passer les choses assez naturellement les unes après les autres. Là, c'est absolument pas possible. Il y a de tout. Nous allons parler de Marcel et Monsieur Pagnol, de Sylvain Chaumet, du nouvel opus, comme nous disons savamment, de Alexandre Astier, Kaamelott, partie 2, volet 1, ou au contraire, volume 2, partie 1. Personne ne s'y retrouve, même pas lui. La petite dernière, un film sur l'adolescence, l'orientation sexuelle et la fracture sociale. Bref, des choses dont nous parlons assez régulièrement ici, je crois, vu ce que nos écrans nous proposent. Enfin, l'homme qui rétrécit. Et puis, nous ne nous laisserons pas partir sans évoquer le programme de la tournée, avec en particulier donc le ciné-goûté et les terreurs nocturnes. Eh bien, nous allons commencer. La mise en train est un peu lente, je l'admets. Nous allons commencer avec Marcel et Monsieur Pagnol.
Il faut savoir tirer sa révérence.
Ah non, il est hors de question que vous arrêtiez d'écrire. Marcel, mes lectrices raffolent de votre travail. Elles veulent tout savoir de vous.
Qu'est-ce que tu veux, Marcel ?
Je veux pas que tu écrives n'importe quoi sur nous. Parce que partout où tu es allé, je suis allé.
Simone ! Ça y est, je suis mutée à Paris ! C'est là que tout se passe.
Provincieux !
Si l'écriture ne marche pas, je pourrais me remettre à enseigner.
Et être malheureux devant ton tableau jusqu'à la fin de tes jours ?
Eh ben, c'est pas comme ça qu'on va devenir célèbre.
Et pourquoi tu n'écrirais pas une pièce qui se passerait chez toi, à Marseille ?
J'ai le point.
Ce Marius, c'est un chef-d'œuvre.
Sylvain Chaumet nous avait déjà régalé en cinéma d'animation avec La vieille dame et les pigeons. Ça, c'était magnifique. Les triplettes de Belleville, bien sûr, célèbre. Et puis, pas d'animation, Attila Marcel. Là, je revu un petit peu ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, il nous plonge dans l'univers de Marcel Pagnol, qui nous est quand même assez familier, parce que la biographie finale de Marcel Pagnol par lui-même, évidemment célèbre, elle est beaucoup étudiée en collège, etc. Donc on est plongé dans ce milieu avec le petit Marcel et Monsieur Pagnol.
Oui, exactement. Et c'est une volonté du petit-fils, hein, Nicolas Pagnol, de faire ce projet autour de son grand-père. C'était un projet initial plutôt dirigé vers le documentaire. Et puis, il s'est transformé en film d'animation. Et puis, Sylvain Chaumet a été sur le projet pour plus de poésie, enfin en tout cas donner plus libre cours à la poésie et à l'imaginaire. Alors dans ce film, on est en 1955, il est au sommet de sa gloire, Marcel Pagnol, et il reçoit une commande pour écrire un feuilleton littéraire racontant son enfance. Et en écrivant, l'enfant qu'il était lui apparaît et il démarre un voyage dans ses souvenirs, la Provence, l'arrivée du cinéma parlant, ses premiers films, son amour du récit. Et plus exactement, en fait, à l'époque, si on veut aller un petit peu plus précisément dans le drame de sa vie, c'est qu'il a perdu une petite fille et qu'il a eu une espèce de creux, bien sûr, hein, normal, très, très complexe. Et il voulait carrément arrêter hein, l'écriture, il voulait tout arrêter. C'est la directrice à l'époque de Elle, donc je me souviens plus le nom, qui l'avait souvent à sa table et qui était une amie proche hein, du couple, qui lui a dit « Mais tu es un narrateur incroyable, tu nous racontes ton enfance avec passion à chaque repas, pourquoi tu n'écrirais pas ça ?» Et en fait, c'est comme ça que sont nés « La gloire de mon père »,« Le château de ma mère », etc.
Qui sont des chefs-d'œuvre, hein, faut quand même le repréciser, c'est une écriture magnifique et puis c'est tellement touchant, quoi, vraiment.
Exactement, c'est très touchant. Alors, en France, on a toujours un problème avec le cinéma d'animation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un film d'animation qui sort, on se dit, mais à qui ça s'adresse ? L'animation, ouais, ouais. On a plutôt tendance à l'orienter vers le jeune public. Il faut à nouveau rappeler que l'animation n'est pas que faite pour le jeune public et que justement avec cette patte très particulière de Sylvain Chaumet, tu as cité entre autres les triplettes de Belleville, on est dans une espèce de forme un peu caricaturale mais sans tomber trop dans le caricatural, donc il a vraiment cette patte-là et sa poésie, et c'est vrai que ce film, il s'adresse vraiment à un public très large, quoi. On dit 77 ans, mais enfin bon, voilà, c'est vraiment très large. On peut en profiter à tout âge. Alors après, c'est aussi une façon de découvrir un auteur, de découvrir l'univers de Pagnol. Le film est très riche dans ce sens-là, et aussi il agrémente l'animation par aussi des extraits des films réalisés par Pagnol aussi sur ses écrits. Et donc ça permet de découvrir plus largement un auteur, et donc on peut vraiment le découvrir à tout âge, et puis pourquoi pas, et je crois que c'est dans l'intention de Christophe, il me semble, de repasser des films, en tout cas de Pagnol, au navire, au cinéma du navire. Et ça peut être un chouette lien à faire quand on aura découvert tous ensemble, j'espère assez nombreux, ce Marcel et Monsieur Pagnol. Mais voilà, il faut aussi savoir passer outre l'animation et se dire que c'est un film à part entière qui raconte une histoire, et en l'occurrence là l'histoire de Marcel Pagnol.
D'ailleurs techniquement c'est aussi une manière de passer outre, parce que bon, Sylvain Chaumet c'est l'animation 2D, bon, clair, classique, et puis c'est aussi la rotoscopie, c'est aussi le fait de dessiner sur des images de films dans lesquels les acteurs jouent, et puis lui il rajoute sa patte en dessinant, donc on a une technique un peu mixte, un peu hybride comme ça, et puis il y a chez Sylvain Chaumet un vrai talent de mise en scène aussi, hein, des plans, etc. Donc c'est, oui, ça me paraît tout à fait adapté à un public, comme vous l'expliquez, extrêmement large. Et ben nous allons continuer, je vous avais prévenu, avec quelque chose qui est absolument sans aucun rapport, il s'agit de Kaamelott d'Alexandre Astier.
Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde.
Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas.
Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon.
Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais.
En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début.
C'est un message des dieux, c'est sûr.
Je vous préviens, si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui.
Ah mais deux secondes peut-être, non? L'aventure, c'est pas la va-vite.
Allez hop, table ronde!
Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes.
Oh, attendez, c'est Arthur Pendragon qui préside?
Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage!
Bon sang.
Hola, 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 hola. Tout doux les foufous. Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure ?
Voilà, dans un programme de Cinémascope assez décousu, un film assez décousu. Quand on regarde un petit peu les présentations, on a, paraît-il, affaire à une comédie d'aventure historique. Alors que Alexandre Astier, par ailleurs, dit que ce n'est pas vraiment une comédie, ce qui est vrai, que ce n'est pas non plus un film d'aventure, puisque c'est de l'aventure clairement pour de rire, si on compare à un film d'aventure, évidemment, ça n'a rien à voir. Quant à l'aspect historique, alors là, il est complètement absent, puisque c'est de la légende sur de la légende. Donc l'histoire du roi Arthur, c'est l'histoire mi-historique, mi-légendaire d'un roi de Grande-Bretagne au 5e, 6e siècle. Ça a été repris beaucoup plus tard par les historiens et les premiers romanciers du 11e, du 12e siècle. Et puis depuis, la matière de Bretagne, comme on dit, cette histoire du roi Arthur, de Lancelot, de Merlin l'Enchanteur, de Guenièvre, enfin, etc., ça épouse absolument tous les genres artistiques connus depuis donc 1000 ans. Et donc Alexandre Astier s'y est collé maintenant depuis un petit moment, puisqu'il commence avec une série à très courts épisodes en 2005. Ce sont des épisodes de 3 minutes. Ça remplace la caméra café là, sur Canal. Donc voilà. Et puis ensuite, on arrive à la saison 6, livre 6, pour reprendre la terminologie d'Alexandre Astier, avec des épisodes de format américain, 42 ou 49 minutes, voilà. Et puis enfin, on débouche en 2021 sur le premier volet de Kaamelott, et puis cette fois-ci donc sur le deuxième volet, partie 1, et on continue donc les aventures du roi Arthur de Pendragon, de Lancelot. Alors, Lancelot a été mis un petit peu en veilleuse, hein, pour le synopsis, on va dire ça. Lancelot a été mis un petit peu en veilleuse, et puis en parallèle, il y a tentative de reconstitution, alors matériellement, hein, de la table ronde. Tous les chevaliers de la table ronde dispersés en Grande-Bretagne doivent venir avec un morceau de ce qu'ils veulent, pour refaire une table ronde et à partir de là reprendre les aventures du roi Arthur de Pendragon. Et d'ailleurs, ça commence par une première entrevue entre ces rois assez minables, au terme de laquelle il est décidé que chacun va repartir en quête. Donc effectivement, en quête. Et alors, l'impression que moi ça me laisse globalement, c'est qu'Alexandre Astier est lui-même en quête. On a l'impression donc qu'il veut ajouter sa pierre à l'édifice somptueux de la légende arthurienne, depuis ses petites séries jusqu'à ses grands films aujourd'hui, et en passant par des romans graphiques et autre chose, autres projets qui aboutissent en général peu. Et alors, Alexandre Astier, il y a cette espèce de côté bricolage quand il se vante de réaliser le scénario de Kaamelott, premier volet, sur un nano-ordinateur Raspberry Pi avec un logiciel hyper open, hein, de traitement de texte, WordGrinder, avec un clavier Beppo, qui est un clavier spécial pour les langues européennes, et non pas, enfin, le contraire de l'AZERTY américain, en quelque sorte. Donc on a quelque chose de geek, comme ça, on fait dans le microscope, qu'on fait dans le marginal, etc. Ceci dit, le premier volet a coûté 15 millions et cet opus-là, on est à pratiquement 20 millions d'euros. Donc on est dans cette espèce de contradiction, et quand on suit le film, c'est un peu la même chose. On sait, moi, personnellement, tout le long du film, j'ai gardé, je crois, sur la face... J'avais pas de miroir non plus, hein. Mais j'ai l'impression d'avoir gardé sur la face une espèce de demi-sourire permanent, parce qu'effectivement, en particulier, les dialogues sont assez désopilants. Il y a l'usage d'un vocabulaire très étendu qui va du vocabulaire savant à l'argot, enfin, etc. Donc on joue, on bricole comme ça des dialogues avec ça. C'est assez, effectivement, désopilant. Mais alors, on ne sait jamais si on est au premier degré, au deuxième degré, voire au troisième degré. C'est-à-dire, on va avoir des scènes de burlesque où on se fait canarder par des légumes, si vous voulez. Mais on sent bien qu'Alexandre Astier vous dit Je suis pas en train de rire du mec qui se fait canarder par des légumes. Je suis en train de rire du fait que je suis en train de faire une scène burlesque qui a pu faire rire directement autrefois. Et puis finalement, on s'est dit, je suis peut-être en train de rire de celui qui rit, de celui qui... Bon, alors au bout d'un moment, ça épuise un petit peu le mental, si vous voulez. Et on sent comme ça les spectateurs au cinéma qui décrochent comme ça au fur et à mesure. Alors... Il y a des choses qui réveillent, je l'ai dit, les dialogues, et puis il y a aussi le casting. On voit apparaître Guillaume Gallienne, Virginie Ledoyen, Christian Clavier, Audrey Fleurot, magnifique, Alain Chabat, Clovis Cornillac, Thomas VDB, même Daniel Mesguich, qui joue d'ailleurs superbement bien, une espèce de mage improbable comme ça. Mais c'est vraiment... Alors, ça, régulièrement, ça vous réveille, si vous voulez, mais... À la fin, on est obligé de se demander, mais où est-ce que ça me mène tout ça? Alors, est-ce qu'il va y avoir un deuxième volet, partie 2, puis un troisième volet, partie 1, où on va continuer des quêtes impossibles de scénario? Parce que là, il y a nécessité de, à mon avis, de se mettre d'accord avec lui-même sur l'écriture d'un scénario, avec un peu une histoire, parce que là, multiplier les quêtes comme ça un petit peu au hasard, parce que c'est un peu ça, on tire sa quête un peu au hasard. Ça suffit pas à faire un ensemble narratif qui parle et qui a un sens, quoi. Donc, Alexandre Astier en recherche de sens, un petit peu comme son héros. Ben, si vous êtes en recherche de sens également et que vous tenez pas spécialement à vous marrer, vous pouvez aller voir donc ce nouvel opus de Kaamelott. Nous allons passer à quelque chose de moins marrant. Je vous ai dit, il y a pas de lien, il y a pas de lien avec la petite dernière.
Salam tout le monde.
Salam ma fille.
Ça va, Yéma?
Ça va.
Fatima, t'as les mains dégueulasses. On travaille depuis tout à l'heure, tu sers à rien.
Tu vas faire comment plus tard avec ton mari? Tu ne seras pas là.
Quel mari qui va vouloir l'épouser? Elle a zéro féminité, regarde.
Comme ça. Lui alors?
Comment t'as su que tu préférais les femmes?
Je suis tombée amoureuse en fait d'une de mes copines au lycée. Banal. Toi, tu sais pas encore.
En fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est musulmane. Elle s'est rendue compte qu'elle était attirée par les femmes.
L'homosexualité est quelque chose de prohibé. L'instinct de l'homme, c'est d'être attiré par les femmes, et l'instinct des femmes, c'est d'être attiré par les hommes.
La petite dernière, je sais pas si c'est un premier film ou pas.
Non, c'est son troisième long métrage.
Ah, pardon. Et donc, la petite dernière, donc, fait philo. Alors c'est évidemment le petit détail que j'ai remarqué dans le synopsis. J'ai pas vu du tout le film. J'ai vu plusieurs fois la bande-annonce. Une jeune fille qui se cherche un petit peu et qui, je crois, commence par se trouver. L'ambiance a l'air joyeuse d'une certaine manière. Et donc là, effectivement, la petite, tout à fait anecdotiquement, j'avais noté que cette jeune fille choisissait d'étudier la philosophie à la faculté.
Exactement, c'est ça. Fatima a 17 ans, c'est la petite dernière d'une famille d'immigrés algériens en banlieue parisienne qui va intégrer une fac de philo à Paris. Et elle vit le passage à l'âge adulte, l'émancipation, la confrontation entre tradition familiale et désir personnel, notamment en explorant son identité, sa sexualité et surtout sa foi, évidemment, parce que c'est très vite qu'on comprend l'enjeu du film autour de... elle, son orientation sexuelle, puisque clairement elle est attirée par les filles, et l'incompatibilité avec
présumée
avec sa foi et la religion, voilà, et musulmane, quoi. Enfin, en tout cas, qui n'est pas la religion musulmane, on dit, ou on dit l'islam.
On peut dire les deux. Il me semble qu'on peut dire les deux, oui.
On peut dire les deux. Donc, c'est un film qui a été présenté à Cannes, qui était en compétition à Cannes cette année. Avia Herzi, elle a réalisé déjà deux longs métrages. Je pense que celui-là, il marque encore plus quand même son... sa qualité déjà de réalisatrice. C'est vraiment un grand film. Enfin, je l'ai trouvé très fort. Et l'actrice d'ailleurs, hein, qui s'appelle Nadia Miletti, elle a remporté le prix d'interprétation féminine à Cannes pour ce rôle de Fatima. Elle est incroyable. Elle est de tous les plans et elle a une à la fois une innocence. On sent une innocence en tant qu'actrice. On sent bien que elle a été castée comme ça, hein, pas du tout. Elle n'avait pas fait de film avant. Et en même temps, elle a déjà une présence, un charisme, une facilité quand même incroyable en lien avec la caméra. Ce qui va t'intéresser, Olivier, c'est que c'est adapté d'un roman du même nom. Tu vois.
Ça m'intéresse beaucoup.
De Fatima Das, d'ailleurs c'est peut-être sa propre histoire de Fatima. Voilà, ça met en lumière un point de vue assez, enfin, contemporain, mais je veux dire assez peu exploité en fait, ce sujet. Hein, la question de, en tout cas côté féminin, ça a pu être exploité un peu côté masculin. Je pense au Bleu du Caftan, par exemple. Ouais, mais magnifique. Là, on est, qui est très beau. Là, on est sur une identité sexuelle féminine et la difficulté d'avouer ça à ses parents et même plus généralement à la société et à l'environnement dans lequel on est. Elle a 17 ans.
17 ans, oui, elle vient d'avoir le bac. Et effectivement, je suis curieux effectivement d'aller voir ce que donne à l'écran ce lien entre l'orientation sexuelle non habituelle et puis la foi, la question de la foi.
Oui, et puis on sent bien que ce personnage était dans un univers très préservé, voilà, enfin avec une famille aussi, enfin aimante, et finalement là, elle va découvrir la fac, tout ce que ça, là, c'est pour n'importe quelle adolescente, on va dire, peut-être ça pourrait être la même chose pour n'importe quelle adolescente, mais elle, il y a une dimension supplémentaire et c'est vraiment un grand film. Moi, j'ai été impressionnée par ce film-là, par la façon que Avia Herzi a raconté cette histoire, même si c'est inspiré. Enfin, elle est également scénariste sur le film, et même si c'est inspiré d'un roman, il n'empêche qu'elle a su y mettre une dimension très personnelle aussi. C'est vraiment un film à découvrir.
Ce qui moi m'a frappé comme ça, les quelques images de la bande-annonce, c'est la joie et le naturel. Mm-hmm. Et effectivement, ce que j'ai envie de découvrir, c'est encore une fois le rapport de la morale et de la philosophie, éventuellement aussi de la philosophie et de la foi. Parce que c'est là aussi difficile parfois à superposer, à concilier. Vous pouvez, j'imagine, le comprendre. On continue donc, je vous avais promis, je tiens mes promesses, avec quelque chose qui n'a de nouveau rien à voir, L'homme qui rétrécit.
Man. You are getting smaller. There's no medical precedent for what's happening to you. I simply know that you're getting smaller.
I want you to stop thinking about us, our marriage. Some awful things might happen.
As long as you've got this wedding ring on, you've got me.
This is Orson Welles speaking. I have 45 seconds to tell you about something I think you'll remember the longest day you live. It's about a man named Scott Carey. A few months ago, he was 6'2" tall and weighed 190 pounds. Today, he's 2 inches tall and you can hold him in the palm of your hand. Now he lives in a world where he must fight for his life, a world where a friendly house cat is a predatory monster.
Voilà, je pense que cette bande-annonce nous met directement dans le bain. Vous aurez reconnu, ou pas d'ailleurs, la bande-annonce de The Incredible Shrinking Man. C'est un film de Jack Arnold, sorti en 1957 sur un roman de Richard Matheson, publié l'année précédente, et Richard Matheson a écrit le scénario du film pour Jack Arnold. L'histoire d'un homme qui rétrécit, tout simplement. Donc Jack Arnold et Richard Matheson étaient des familiers du genre horreur, science-fiction, etc. Ils ont tous les deux, dans leur genre, multiplié les œuvres. Et au début de la bande-annonce du film original, vous allez comprendre pourquoi je parle de film original, c'est A Motion Picture You Will Talk About, un film dont vous allez parler. Et effectivement, dans la bande-annonce, il y a Orson Welles, qui est bon, le réalisateur qu'on connaît, et puis l'homme de médias aussi qu'on connaît, et c'est lui qui avait fait ce fameux gag sur l'arrivée des Martiens à la radio sur la côte Est, et gag qui avait marché. Et donc là, on a l'annonce, un peu de la même manière, de cette chose extraordinaire, un cas médical jamais vu, un homme qui rétrécit et qui rétrécit continuellement. Le film, je l'avais vu vraiment tout jeune. Il m'avait, je crois, dans mon souvenir, fait forte impression. Et c'est donc Jean Kounen qu'on connaît pour 99 francs.
Yann Kounen, on dit.
On dit Yann.
Bah, on dit Yann, ouais. Ouais, ouais.
Bah, je l'ai vu que qu'écrit, moi, alors je ne sais pas. Donc, en fait, son nom, déjà, il a été bricolé. En fait, c'est d'origine hollandaise. Il l'a bretonisé étrangement. Mmh. On ne s'y retrouve plus. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de lien dans cette émission. Si ce n'est donc ce lien entre ce monsieur qui fait des films, donc 99 francs, et un lien donc avec Jean Dujardin qu'il avait utilisé dans 99 francs et qu'il retrouve là pour L'homme qui rétrécit, c'est véritablement un remake, raison pour laquelle je me suis permis de passer la bande-annonce du film original. C'est un remake, on retrouve le même scénario, mais je dirais presque les mêmes scènes, dans le même ordre. Et donc un montage même similaire. C'est un film très particulier. Quand on rentre dans la salle, on ne sait pas très bien si on va se marrer ou si on va réfléchir, voire même être un petit peu déstabilisé. J'avais même lu une critique négative de ce film, mais je ne l'ai pas retrouvée pour la citer convenablement, mais où qui prétendait que le réalisateur de cet opus n'avait pas réussi à choisir entre la comédie et justement le film d'horreur et limite la tragédie. Moi, je crois au contraire qu'il a parfaitement choisi et qu'il tient cette chose quand même très difficile à tenir, c'est-à-dire sur un scénario quand même tout à fait invraisemblable d'un homme qui rétrécit, on garde un véritable sérieux du début à la fin. C'est-à-dire, vous avez effectivement Jean Dujardin qui est chef d'entreprise, qui est un homme qui va bien, marié, une enfant qui grandit, Mia qui grandit, tout va bien, et un jour il se rend compte que ses chemises sont trop grandes, quoi, tout simplement. Donc il va voir le médecin qui lui dit que oui, il a perdu 4 cm, mais que c'est pas non plus. Et puis au bout d'un moment, les médecins se rendent compte que, comme dans le premier film, se rendent compte que sans qu'on ait la moindre ébauche d'explication, il est effectivement en train de rétrécir. On ne dévoile pas grand-chose du film en disant qu'il va effectivement continuer à rétrécir pour atteindre, sur les dernières images, la taille des fourmis, quoi, à peu près. Donc, alors, moi, j'ai trouvé qu'il y a un challenge qui est réussi, c'est de, justement, garder la posture sérieuse de cet homme qui rétrécit, qui d'abord affronte simplement des situations très déstabilisantes. Je veux dire, il est perdu dans son fauteuil, effectivement, il peut plus atteindre les bouteilles, etc. Mais progressivement, effectivement, il est réduit à la taille d'une souris, puis d'une araignée, puis etc. Et il devient la proie potentielle du chat et ensuite la proie potentielle de l'araignée, comme s'il était un moustique. Donc, et garder le sérieux dans des scènes qui sont quand même assez extravagantes, j'ai trouvé que c'était réussi et que c'est lié au jeu convaincant de Jean Dujardin, qui par rapport au premier film, malheureusement, comme pour nous, évidemment, Jean Dujardin est très, très connu, oscarisé, etc. Bon, on est un peu dans cette situation où l'acteur fait un peu écran pour atteindre le personnage. Mais grâce à son jeu assez convaincant, on finit quand même par oublier Jean Dujardin et avoir cet homme désespéré. Et effectivement, on suppose, on a des images qui suggèrent que sa réduction se poursuit et qu'il devient infiniment petit et dans un univers infiniment grand, ce qui pose des questions philosophiques assez angoissante pour ne rien cacher et assez déstabilisante. Je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que ce film, sur le programme du navire, est signalé, il y a un avertissement. Parce que je pense qu'effectivement, un public, il doit y avoir des âges, moi j'aurais du mal à déterminer à quel âge, mais ça peut faire une impression effectivement assez forte.
Oui, sachant que l'homme qui rétrécit est dans la version de 1957, elle est dans les dispositifs scolaires et elle est, je pense, dans le collège particulièrement. Donc, tu vois, à 12 ans, 11-12 ans, quoi, en fait, à partir de 10-11-12 ans, je suppose. Et là, celui-là, moi, je n'ai pas vu, je ne l'ai pas vu et je n'ai pas vu du tout d'image. J'imagine que visuellement, techniquement...
C'est pas tellement meilleur. Et je me demande si c'est pas voulu.
Ouais.
Parce que ça fait encore plus remake. On a les mêmes problèmes de superposition d'images, alors qu'il y aurait probablement eu des techniques pour rendre les choses plus lisses, plus continues. Mais encore une fois, c'est pas grave parce que ça nous fait rentrer dans le film comme film, en fait, d'une certaine manière.
Pas que le film soit, enfin c'est ce côté effet visuel en tout cas, soit ce qui marque plus que l'histoire elle-même. Quoi.
Exactement, ouais, tout à fait.
Okay.
Et je trouve intéressant donc effectivement, je l'ai appris avec toi que le film est dans les programmes scolaires. C'est vrai que au moment de l'adolescence, où vraiment on prend de plus en plus clairement conscience de la finitude humaine, là on a vraiment une leçon sur la finitude de l'humanité. Du point de vue de l'individu, mais par les temps qui courent, du point de vue de l'espèce globale. C'est-à-dire, et je pense que c'était un petit peu le propos du film en 57 déjà. C'est un questionnement sur notre infinie légèreté dans ce monde infiniment grand, mais comme individu, mais je crois aussi comme espèce, l'espèce humaine qui atteint aujourd'hui les limites de son environnement. Qui le remet même en question, c'est vrai. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un film qui, de ce point de vue-là, pose énormément de questions fondamentales et le font réellement bien, à mon sens, quoi. Voilà. Il nous reste peut-être à évoquer certains points du programme de la tournée. Jeudi 30 octobre, c'est Ciné-Goûter à l'USAS. Dans l'après-midi.
Oui, donc avec Maya, donne-moi un autre titre. Ouais. Le film de Michel Gondry. Alors, on a chaque vacances scolaires, on a des propositions jeunes publics sur l'USAS et aussi sur Tueil. Là, c'est le deuxième film que Gondry a fait dédié un peu à sa fille, Maya étant sa fille. Et donc, il avait fait un premier film. Bon, Michel Gondry, il est connu pour son côté artisanal du cinéma, à la fois génie et artisan. Donc là, il continue dans cette voie avec l'animation. Le film sera...
Si je peux pas me permettre une seconde, le pitch, c'est-à-dire un père et sa fille sont séparés géographiquement.
Oui.
Et pour conserver l'habitude de raconter des histoires,
exactement,
il demande à sa fille de lui proposer un titre. Et sur la base de ce titre que lui propose sa fille, il élabore une histoire.
Il donne vie à une histoire.
C'est, l'idée, à mon avis, très sympathique.
Exactement. Et là aussi, on peut dire que ça, c'est aussi bien pour les petits que pour les grands. Et donc, le film est à 14h et le goûter est suivi. Enfin, voilà, il est dans la foulée de la projection qui dure une heure. Voilà.
Et on annonce aussi, alors vendredi 31, on aura l'occasion certainement d'en reparler dans le Cinémascope du vendredi 31, donc la semaine prochaine. Mais là, c'est Terreur Nocturne.
Exactement, et Terreur Nocturne, c'est une opération qui a été organisée pour la première fois l'année dernière en partenariat avec ce fameux comité 1525 que tu adores, à l'Association française des cinémas d'art et essai.
Là, on sent la créativité quand même des acteurs de la culture.
Ah, tu es vache. Écoute, c'est déjà bien que ce comité existe parce que ça permet aussi de travailler. Et le plus important, c'est le renouvellement des publics des salles de cinéma, notamment des salles art et essai.
Tout le monde aura compris que je plaisante.
Mais bien sûr. Et donc, c'est un partenariat Association française des cinémas d'art et essai et Passe Culture pour pouvoir permettre à ce public que nous aimons beaucoup des 15-25 ans de venir découvrir plein d'œuvres à moindre coût dans les cinémas participants. Et là, en l'occurrence, la Maison de l'Image au Bénin a le plaisir de participer à cet événement. Terreur Nocturne, le 31 octobre, ce sera à l'USAS avec un film que
assez
nous
fou.
Aimons beaucoup,
ouais,
Dernier train pour Busan, qui est interdit aux moins de 12 ans, mais qui est assez savoureux en tout cas. Et moi qui ne suis pas du tout adepte de ce genre cinématographique, je m'étais pourtant régalée en le voyant au cinéma, parce que c'est vraiment un film de cinéma, où un virus inconnu se répand en Corée du Sud.
Oui.
Voilà.
Alors qu'il s'est déjà répandu en Corée du Nord, en vrai, quoi. Mais ça s'appelle le bolchevisme.
Donc on aura la présentation de ce film, la projection de ce film. On aura aussi une animation surprise à l'issue. Et voilà, il faut venir nombreux. C'est à partir de 20h30 à la salle de l'USAS.
Merci Cathy. Il me reste à remercier les auditeurs et puis surtout Sylvain qui fabrique tout ça. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.